Bienvenue sur Radio ZEF. Aujourd'hui, nous allons parler du monde animal et de l'impact de l'homme sur la planète. Pour commencer, nous allons parler du monde animal. Le premier sujet traité par nos lycéens journalistes est les espèces en voie de disparition. Ce sujet sera proposé en micro-trottoir par Aurore et Noémie.
Bonjour à tous, nous sommes Noémie et Aurore, actuellement en seconde CVPA au lycée Orcole de Blois.
Nous avons interrogé plusieurs personnes qui ont donné leur avis sur les espèces en voie de disparition et éteintes.
Les espèces en voie de disparition sont celles qui sont en danger, ont un statut de conservation, sont des espèces en péril exposées à une disparition ou à une extinction imminente. Dans la catégorie en danger, nous avons les tigres, l'ours, le panda géant, le léopard des neiges, le loup, le lynx, ainsi que plein d'autres espèces. Et voici quelques exemples des espèces qui sont éteintes, le tigre de Java, le dodo, le grand pingouin et plein d'autres encore.
Pour les causes de l'extinction des animaux, la principale menace est la déforestation. C'est la cause première de la disparition de près de 85% des animaux, ainsi que le réchauffement climatique et la surexploitation des espèces. Il y a entre 150 000 et 260 000 espèces éteintes. Dans la dernière édition de la liste rouge mondiale, sur les 147 517 espèces étudiées, 41 459 sont classées menacées. Parmi ces espèces, 41% des amphibiens, 13% des oiseaux et 27% des mammifères sont menacés d'extinction au niveau mondial. Ces chiffres proviennent de Futura Science.
Avez-vous une solution pour lutter contre la disparition des espèces ?
Des solutions, bonjour d'abord, des solutions miracles, je ne sais pas, mais enfin, il y a des petites solutions auxquelles on réfléchit de plus en plus, c'est-à-dire de revégétaliser, reboiser, refaire des bocagères, des paysannes en fait, où effectivement les oiseaux, les insectes reviennent. Viennent se reproduire, ce qui est à mon sens très important pour la préservation des espèces. Voilà. Prendre le chemin inverse de celui qui a été pris dans les années 60.
D'accord. 41% des amphibiens, 13% des oiseaux et 27% des mammifères sont menacés d'extinction. Que pensez-vous de ces pourcentages ?
C'est beaucoup trop, mais je pense que ça vient effectivement des choix d'agriculture qui ont été faits ces 50 dernières années. On est en train de prendre conscience qu'en fait ça ne fonctionne pas. Voilà. L'intensif, les grands espaces, la fin des haies, voilà. Je pense qu'on est en train de repenser tous ces modes d'agriculture et de production et de justement d'éviter cette extinction qui va très vite, trop vite. En tout cas, si on peut la freiner et la stopper, ce serait magnifique. Mais ce sera votre génération aussi de reprendre le flambeau, de se dire que c'est possible.
D'accord, je vous remercie.
De rien.
Avez-vous une solution pour lutter contre la disparition des espèces ?
La solution, oui. D'abord, une prise de conscience collective et massive, avec des répercussions sur notre mode de vie, sur à la fois notre manière de consommer, notre manière de vivre et notre manière de respecter l'environnement.
D'accord. 41% des amphibiens, 13% des oiseaux et 27% des mammifères sont menacés d'extinction. Que pensez-vous de ces pourcentages ?
Ils sont alarmants. Les amphibiens, donc, c'est tout ce qui est grenouilles, donc c'est alarmant d'apprendre ce pourcentage. Et à la fois, ça, c'est tout à fait compréhensible dans la mesure où le vrai problème dans ce pourcentage qui est attristant, c'est tout simplement notre manière de vivre qui a des conséquences assez dramatiques sur le pourcentage des menaces sur les amphibiens, les oiseaux et les mammifères.
D'accord, je vous remercie.
Je vous souhaite.
Avez-vous une solution pour lutter contre la disparition des espèces ?
Alors là, c'est une question intéressante. Une solution, déjà, si les gens feraient plus attention, je pense qu'il y en aurait moins. Les gens chassent, ça devrait être interdit, ça, déjà. Ça pourrait conserver l'espèce. Ouais. Peut-être plus de lois, je dirais. Peut-être plus de lois pour éviter ça.
Ouais. D'accord. 41% des amphibiens, 13% des oiseaux et 27% des mammifères sont menacés d'extinction. Que pensez-vous de ces pourcentages ?
Ils sont dramatiques. C'est des animaux qui ont toujours existé et malheureusement, justement, ils sont en voie d'extinction. Et c'est ces animaux qu'il faudrait davantage protéger, en fait, davantage défendre. Parce qu'on en a besoin aussi. Nous, humains, on a besoin de ces animaux. C'est comme, si je donne un exemple, les abeilles, on en a besoin. Chaque animal, en fait, a son importance.
D'accord, je vous remercie.
Je t'en prie.
Pour conclure, le pourcentage des espèces menacées d'extinction est dramatique, ainsi que très élevé. Il faudrait donc prendre conscience que ces espèces vont disparaître pour toujours et agir en conséquence pour éviter la tragédie.
C'était Aurore et Noémie, merci de nous avoir écoutés, bonne journée à vous.
Nous allons tout de suite écouter un débat fait par Élise, Kylian, Manon et Gwenaël qui porte sur le thème du braconnage.
Qu'est-ce que c'est le braconnage ? Le braconnage est une partie illégale de la chasse ou de la pêche. Les espèces protégées, les absences de permis ou de territoire inappropriés sont des exemples de braconnage. Que pensez-vous du braconnage ?
Je pense que le braconnage n'est vraiment pas bon pour l'écosystème car les espèces animales disparaissent de plus en plus.
Je suis complètement d'accord avec Kylian, mais je voudrais rajouter que je trouve vraiment ça stupide de tuer des animaux pour de l'argent, alors qu'il y a plein d'autres manières de gagner de l'argent sans ruiner à la planète.
Je pense que le braconnage devrait cesser car ça contribue à l'extinction des espèces et je trouve ça inutile de tuer des êtres vivants pour des biens matériels.
Quelles sanctions faudrait-il mettre aux braconniers ?
En France, les sanctions sont au minimum. Seul le permis de chasse est retiré. Certains punis font 3 mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 €. Je pense qu'il faudrait être plus sévère sur les sanctions données en France et dans les autres pays.
Pour mon cas, je trouve qu'il y a plusieurs sanctions possibles et assez sévères pour ça. Je pense qu'on pourrait mettre une amende à tous et toutes, argent gagné et utilisé avec le braconnage devra être récupéré.
Moi, je pense qu'au Kenya, ils ont raison, la peine de mort devrait être établie car l'an dernier, il y a quand même 69 éléphants et 9 rhinocéros tués pour leur ivoire. Donc, je suis pour la peine de mort car les braconniers retirent des vies animales, donc je trouve que leur retirer la vie à leur tour est juste.
Je comprends votre choix maintenant, Manon, mais personnellement, je suis contre la peine de mort, car oui, c'est horrible ce que l'humain fait, mais il mérite une deuxième chance et il y a plein d'autres manières de les punir.
Je voudrais rajouter que le braconnage va très loin, car à cause de ça, il y a des animaux en voie de disparition, comme le pangolin, qui est l'animal le plus braconné. Il est braconné pour son écaille, qui est vendu environ 1 000 € le kilo.
Conclusion. Il faut absolument que le braconnage cesse. Nos avis sur le braconnage sont variés, mais on est tous d'accord sur le fait que le braconnage est une manière de gagner de l'argent facilement, mais horrible pour l'environnement et les animaux. Donc il faut que la punition pour les braconniers sorte plus sévère pour qu'ils comprennent vraiment qu'il faut qu'ils arrêtent.
Ensuite, nous continuons sur la violence sur les animaux sous forme de micro-trottoir proposé par Sacha et Gwenaël.
Pourquoi la violence envers les animaux ? Pourquoi nous, l'humain, on fait du mal aux animaux ?
Alors, très bonne question. Pourquoi on maltraite également les humains ? Je pense que c'est un peu une maladie, des problèmes chez certaines personnes, un besoin peut-être d'autorité sur les animaux, je ne sais pas.
Deuxième question, quels sont les différents types de maltraitance animale selon vous ?
Les premières, je dirais physiques. Peut-être pour se défouler, je ne sais pas, physique.
D'accord. Et du coup, dernière question, quelles sont les conséquences de la maltraitance animale selon vous ?
Les conséquences... Pauvre petite bête. je ne sais pas, ça a multiples conséquences, notamment envers les animaux qui peuvent devenir plus violents, je ne sais pas.
D'accord, bah, du coup, merci.
J'en conclus que la violence envers les animaux, c'est horrible et nous avons choisi ce sujet car il nous portait à cœur, car nous trouvons ça inhumain. Il faut arrêter ceci car les animaux ont des âmes et des sentiments. Quand vous faites ça, vous détruisez leur âme.
Nous allons tout de suite écouter un morceau de Suzanne, Il est où le SAV, sorti en 2020.
On a cassé la planète, il est où le SAV ? On a cassé la planète et ça tout le monde savait.
Cactus, c'est sur ce même cactus depuis y a du plastique. Aïe, sur les plages de Koh Lanta, derrière les candidats, c'est pas si idyllique. Y a des pailles McDo qui sirotent sur l'eau, coca plastique qui flotte sur le Pacifique. Un Capri Sun à la dérive qui finit sur la rive dans la bouche d'une tortue. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. Y'a comme un air de chicha sur les buildings pékinois. Le smog made in China. Les usines crachent leurs poumons, on est tous au premier balcon pour voir le ciel couleur béton. On mange des glaces en février, y'a plus de glace sur les glaciers, les sources polaires vont transpirer. Bulldozer dans les forêts, l'orang-outan est délogé pour la pâte à tartiner. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait.
La planète à la tête dans ce chauffeur. La planète à la tête dans ce chauffeur. Je me dis parfois de façon il est trop tard. Que sommes-nous face à l'euro, le dollar? Un bout de charbon dans une marée noire. Tumeur qui ne crée que des cauchemars. Mais je me concentre sur ce que je veux donner. Une énergie commune qui peut rassembler. Je m'apprêtais à contacter le SAV. Mais le numéro est dévié sur ma ligne.
On a cassé la planète, il est où le SAV?
Ensuite, nous passons à l'interview créée par Chloé et Mélissa parlant de la protection des animaux.
Bonjour, nous sommes Mélissa et Chloé de seconde CFA du lycée horticole de Blois. Nous allons aborder la question de la protection animale en interrogeant des personnes de notre lycée. Nous voulons parler de cela car nous possédons des animaux, les aimons et nous voulons les défendre.
Bonjour.
Selon vous, comment faut-il traiter les animaux?
Moi, je pense qu'il faut les traiter avec respect, que c'est pas des humains, mais c'est des êtres qui sont dotés de sentiments quand même et d'émotions. Donc, je pense qu'il faut être respectueux envers eux et leur rendre tout l'amour.
Quelles sont les obligations d'un propriétaire d'animaux?
D'en prendre soin, de répondre à ses besoins primaires, donc la nourriture, avoir un endroit où dormir, la propreté, tout ça. Plus on lui donne d'amour, mieux c'est. Et puis, bien sûr, ne pas le frapper, ne pas endommager sa santé, qui est assez logique, finalement.
Connaissez-vous des associations autres que la SPA? Si oui, lesquelles?
Je sais qu'il y a des refuges privés. Il y a aussi... c'est une fondation, il y a 30 millions d'amis, qui est aussi un refuge et qui intervient surtout dans des cas de maltraitance, qui fait des enquêtes, tout ça. Voilà, après,
Merci de vos réponses.
De
bonne journée.
Merci.
Bonjour. Selon vous, comment faut-il traiter les animaux?
Avec bienveillance.
Quelles sont les obligations d'un propriétaire d'animaux?
C'est de le nourrir, de l'éduquer, de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il puisse vivre sa vie comme s'il n'était pas la gouvernance d'un humain.
Connaissez-vous des associations autres que la SPA? Si oui, lesquelles?
Non.
Selon vous, comment faut-il traiter les animaux?
Les traiter un peu comme les humains. Moi, je trouve que là, la SPA, ce qu'ils ont fait avec l'engagement, la feuille d'engagement, c'est très bien. Ça permet pas de rabandonner après la bête, sachant qu'ils n'ont rien demandé, ils n'ont pas la parole, donc c'est bien d'en prendre soin.
D'accord. Quelles sont les obligations d'un propriétaire d'animaux?
Pas le maltraiter, s'en occuper. Donc s'en occuper, ça veut dire le nourrir, pas le laisser tout seul, le gérer, quoi.
Connaissez-vous des associations autres que la SPA? Si oui, lesquelles?
Pour les animaux?
Oui, pour la protection qui défend la cause.
Je ne l'ai plus en tête, je sais que c'est avec le panda, mais non.
Pour conclure cette interview, on peut voir que la majorité des personnes interrogées veulent le bien des animaux. Nous devons traiter les animaux comme des humains car ils ont des sentiments et peuvent ressentir les nôtres, par exemple comme le stress, la peur.
Ensuite, nous poursuivons sur une note un peu plus gaie, le bien-être animal sous forme de chronique proposée par Rachel et Ambre.
Chers auditeurs, chères auditrices, aujourd'hui nous souhaitons vous évoquer un sujet sensible mais très important, le bien-être animal.
Malheureusement, chaque année qui passe, plus de 100 000 animaux sont abandonnés. Ceci est tellement honteux, 40 000 sur le bord des routes, délaissés, tout seuls, sans personne, ils ne peuvent même pas accorder à leurs besoins essentiels.
Ne connaissez-vous pas l'existence de certaines associations ? Non, certains ne prennent même pas la peine de réfléchir, ils abandonnent. Pour certains, il y a la SPA, une super association pour vos animaux, et certaines personnes intéressées peuvent les reprendre pour les adopter.
Leur espace de vie est une chose très importante, que ce soit pour l'hygiène de vie, l'espace et la pauvreté. Une cage ou un habitat dans un état délabrant, pas nettoyé, avec parfois des maladies, ce n'est plus possible. Imaginez-vous enfermé dans un espace de vie de 2 mètres carrés, jamais nettoyé, ou une fois tous les 3 mois sans attention, ces animaux sont en permanence en souffrance.
Toute chose importante et primordiale pour tous les animaux que vous possédez chez vous, hygiène de vie, les besoins essentiels et pour terminer, l'espace de vie, font partie du bien-être animal.
Pour finir le monde animal, je vous laisse une nouvelle fois avec une interview conçue pour Maëlle qui parle de l'animalerie.
Bonjour, je m'appelle Maëlle, je suis en seconde CVPA au lycée horticole de Blois. J'ai abordé le thème de la vente animalerie. Je vous parle de vente animalerie car j'aimerais peut-être travailler dans... ce domaine, j'adore les animaux et je veux en apprendre plus sur eux. J'ai interviewé ma prof d'animalerie. Bonjour madame, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît pour l'interview.
Oui, bonjour. Alors je suis Véronique Brette-Guillouche et je suis enseignante en zootechnie animalerie au lycée horticole de Blois.
Quelles sont les formations pour être vendeuse en animalerie ?
Pour être vendeur en animalerie, eh bien, il existe une formation de bac pro technicien conseil vente en animalerie. C'est une formation qui dure 3 ans, de la seconde jusqu'à la terminale. Elle débute après la troisième et donc elle aboutit à un bac pro vente en animalerie.
Quels animaux peut-on trouver en général en animalerie ?
On peut trouver beaucoup d'animaux différents en animalerie, quasiment toutes les espèces qui ne sont pas protégées, qui ne sont pas dites envahissantes et qui ne sont pas dangereuses. Donc on peut avoir des oiseaux, tout ce qui est pigeons, tourterelles, on peut avoir des animaux de basse-cour, on peut avoir des canaris, des mandarins, tout ce qui est perruches et perroquets. Mammifères, on peut avoir lapins, cochons d'Inde, souris, chinchillas, octodons, hamsters. Il y a aussi les poissons, où on peut avoir du poisson d'eau froide, les poissons rouges, du poisson d'eau chaude, tropicale. Donc tout ce qui est scalaire, néon, combattant. Il y a aussi des poissons d'eau de mer dans certaines animaleries spécialisées. On peut trouver aussi des reptiles, tortues, lézards, serpents et d'autres animaux de terrariophilie, des insectes, des grenouilles, des axolotles par exemple.
Quand les animaux se blessent, que devrez-vous faire pour les soigner ?
Alors, quand on a des animaux qui sont blessés ou qui sont malades, on les isole. On les met en infirmerie et on apporte les soins nécessaires.
Quels sont les gestes de sécurité qu'il faut faire pour ne pas se blesser et blesser les animaux ?
Quand un vendeur en animalerie travaille, il doit surtout faire attention à sa posture, notamment faire attention à son dos et plier les jambes quand il porte des charges lourdes, puisqu'il peut être amené à porter des sacs de 25 kg. Ensuite, quand il travaille avec les animaux, il faut toujours travailler en sécurité, à la fois pour l'animal et pour le vendeur. Il va se protéger contre les zoonoses avec une blouse, des gants et en se lavant les mains. Il va approcher toujours les animaux de façon calme et il doit agir rapidement, sereinement, pour aller au plus vite et qu'il n'y ait pas de problème avec l'animal.
Quelles sont les règles du être des animaux en animalerie ?
Du bien-être.
Du bien-être, oui.
Alors, en animalerie, on essaye effectivement de garder des animaux en état de bien-être. Donc, on va mettre déjà les animaux dans des cages ou des vivariums adaptés à l'espèce, avec des tailles suffisamment grandes. On va mettre aussi un substrat, une litière, qui sera adaptée à l'espèce et qui n'entraînera pas de problème pour l'animal. On va l'alimenter avec l'alimentation adaptée. On va également faire en sorte que la cage reste propre pour limiter le développement des maladies. Et on va toujours trouver des moyens pour faire cohabiter des animaux qui s'entendent.
Merci pour cette interview.
De rien, c'était un plaisir.
Maintenant que nous avons fini le monde animal, nous allons poursuivre sur l'impact de l'homme sur la planète. Mais avant ça, voici une chanson de Michael Jackson, Earthsong, sortie le 27 novembre 2015. Earthsong a atteint le top 5 de nombreux classements musicaux.
Sunrise, what about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop this notice, this crying earth, this weeping shore? Thank you.
Voici une chronique qui a été faite par Lydie et Léna qui parle de la pollution.
On retrouve différents types de polluants dans l'air qui peuvent être produits par les activités humaines ou qui sont d'origine naturelle. Par exemple, émissions par la végétation, l'érosion du sol, les volcans, les océans, etc. La pollution, elle est dangereuse parce qu'elle peut provoquer de nombreux problèmes de santé et est l'une des causes du réchauffement climatique. La pollution entraîne notamment pour l'être humain des irritations au niveau des yeux, du nez et de la gorge, mais peut également aggraver des pathologies respiratoires chroniques, asthme ou bronchite. Elle peut créer également des dérèglements plus graves sur notre Terre en raison des particules polluantes émises par exemple par les véhicules à essence, réchauffement climatique notamment. Les solutions seraient que c'est un problème complexe, mais le principal enjeu pour lutter contre la pollution atmosphérique est de produire une énergie plus propre. Cela consiste donc à abandonner les combustibles fossiles, exemple le charbon, et à les remplacer par des énergies alternatives telles que l'énergie solaire, éolienne, le vent, et géothermique, chaleur produite dans le sous-sol de la Terre.
Je vais vous parler de ce qui pollue le plus, comme les bateaux pétroliers qui naviguent sur les mers et quand ils coulent, lâchent des énormes nappes de pétrole qui détruisent les fonds marins, les nombre de touristes qui déambulent dans la ville et jettent leurs déchets qui s'accumulent sur les trottoirs et routes, qui sont souvent des produits non consommés, des usines qui lâchent leurs gaz et leurs eaux usées dans les égouts. Je ne vois pas pourquoi on aurait le droit de polluer la terre qui nous garde si longtemps.
Pour poursuivre, nous allons écouter un morceau de Terroir Jean proposé par le groupe Balou et le chanteur Charlie, un de nos lycéens. Ce gars a du talent!
Meurt et moi je le vois, l'humain et sa tumeur qui augmente le climat, voile sur la conscience et pas très laïque, aveuglé devant réchauffement climatique. Informé du sujet, ça je ne sais pas, mais les actes de l'homme, ça je le vois. On viendra se plaindre sous les 50 degrés, rejetant la faute sur les gens d'à côté. Les océans qui augmentent sous les larmes de ceux qui ne font rien. Pourtant c'est pas eux qui devraient pleurer. C'est les êtres humains qui se comportent en humains. Pas ceux qui font rien pour ce qu'il y a sous leurs pieds. Pas ceux qui s'en foutent de l'humanité. Mais bon, on s'en fout, les conséquences sont pas là. Mais t'inquiète, demain on en reparlera. Plus de dégâts naturels, ça dure depuis des années, un peu comme Israël. Il sait quoi dans un jeu, mais ici c'est la vraie vie, c'est le réel. La terre pleure et se meurt petit à petit. Les gens ont peur, mais jamais ils agissent. Les conséquences à patron si les plus hauts gradés ne font pas leur fonction. La pluie tombe pas sur le même sol qu'il y avait avant. Aujourd'hui on constate beaucoup plus le changement. Triste à dire mais on ne pourra jamais la récupérer. La seule chose qu'on peut faire, c'est la stabiliser. Pas de poubelle, papier reste dans la poche. Si tu veux vraiment prendre soin de tes proches, véhicule le message, faut pas tourner la page. Car le début du livre impacte les personnages. Car le début du livre impacte les personnages. Je parle des hautes chaleurs, mais peut-être que les températures négatives vont en réveiller. Car pour eux, c'est les vacances toute l'année, un peu comme un rêve, mais éveillé. Ils oublient les ouragans, les tremblements de terre, la planète est déréglée. Les premiers concernés, c'est les milliardaires, et ça ne risque pas de changer. Je sais que ça peut être compliqué de changer, de faire attention en se disant que personne le fait, mais au final peu de personnes le font. Ils se réveilleront lorsqu'on touchera le fond. Mais ça sera déjà trop tard, avançant des glaciers fondus. Mer qui augmentera son étendue. Plus de futur, donc fin de l'histoire. L'homme perdra pour un peu de pouvoir. Et pour le pouvoir, il aurait été prêt à tout. Déforestation faite un peu partout. De l'espoir, il en reste peu. C'est pour sauver la planète aussi peu. Comme au plus vieux. Je compte sur nous, je compte sur vous. La pluie tombe pas sur le même sol qu'il y avait avant. Aujourd'hui on constate beaucoup plus le changement. Triste à dire mais on ne pourra jamais la récupérer. La seule chose qu'on peut faire, c'est la stabiliser.
Et pour le pouvoir, il aurait été prêt à tout. Déforestation, faites un peu pas. continuons sur un micro-trottoir pour Léonie et Maëlys sur l'inflation.
En quoi l'inflation a-t-elle changé vos habitudes ?
Déjà, on va dans des magasins discount. Avant, on allait plutôt dans les magasins haut de gamme, je dirais, genre Intermarché. Et là, on va plus dans les magasins discount, style Leader Price, Lidl. Ouais. Le budget a augmenté.
Ouais. D'accord. Et pour vous, à quoi est-elle due ?
Alors là, à quoi est-elle due, l'inflation ? Peut-être à la population, hein. Peut-être qu'il y a plus de gens dans le monde, ou peut-être que les produits aussi sont aussi exportés de d'autres pays, ce qui fait que bah forcément les produits sont vendus là aussi ici. Hein. Je pense que ça va être ça.
Ok.
Du coup, en quoi l'inflation a-t-elle changé vos habitudes et pour vous, à quoi est-elle due ?
L'inflation, oui, bah aussi ça a quand même changé mes habitudes de, par exemple, d'utilisation des transports, des achats, voilà. Les achats, les courses, ce genre de choses, mais surtout la réflexion autour de l'usage des transports, du voyage aussi, un peu moins de voyage finalement, parce que les transports coûtent quand même cher, l'avion, l'essence, enfin tout est payé, donc moins de sorties, ouais. Peut-être moins de loisirs.
Et pour vous, à quoi est-elle due ?
Je pense qu'elle est multifactorielle en fait, on parle essentiellement de la guerre en Ukraine, mais je pense qu'il y a eu aussi, avant ça, on a eu quand même la crise Covid, déjà avait vu une augmentation de certains prix. Enfin, ça fait quelques années qu'il y a déjà des produits qui augmentent, en fait. Produits laitiers, le beurre, enfin, des petites choses. Et en fait, bon, on a accepté ces augmentations. Sauf que là, en fait, elles sont en train de se généraliser à quantité de produits, de services, et voilà. Je pense que c'est vraiment pas que la guerre en Ukraine. Il y a des choses bien plus complexes. Et voilà. Résumer ça à la guerre en Ukraine, c'est un peu prendre des raccourcis, je pense. Mais voilà, il y a la question de l'endettement, des pays en Europe, en France. La question de l'énergie, des transitions énergétiques qu'on est en train de vivre, là. Et plus effectivement cette guerre, mais je ne pense pas qu'on puisse résumer ça à ça.
Ok, merci beaucoup.
Bonjour.
Du coup, en quoi l'inflation a-t-elle changé vos habitudes ? Et pour vous, à quoi est-elle due ?
Ça a changé mes habitudes dans le sens où on fait beaucoup, beaucoup plus attention à ce qu'on achète. On compare beaucoup plus les prix. Les voyages, on y réfléchit plus qu'avant. C'est surtout ça en fait, on fait vraiment attention et y a des petites choses comme je pense par exemple au cinéma où avant on allait au cinéma et puis arrivé au cinéma on se disait tiens qu'est-ce que je vais voir, alors qu'aujourd'hui on réfléchit beaucoup, chaque sortie on va beaucoup réfléchir, est-ce que je peux y aller, est-ce que je peux me permettre d'y aller.
Et du coup pour vous à quoi est-elle due?
On parle beaucoup de la guerre en Ukraine. Mais c'est une bonne excuse pour beaucoup de montées de prix. Les prix, ils augmentent depuis un moment déjà. Et moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est l'inflation. Là, on la limite. Le gouvernement nous la limite. Mais sauf qu'à un moment donné, il va falloir payer tout ça. Et ce qui est inquiétant, je pense, c'est surtout ça. C'est jusqu'à quel point ça va monter. Et à quel moment on va payer le fameux bouclier qui s'utilise actuellement.
D'accord, merci beaucoup. Bonjour. En quoi l'inflation a-t-elle changé vos habitudes ?
Alors, on fait beaucoup plus attention à ce qu'on achète, au départ aux vacances notamment.
Pour vous, à quoi est-elle due ?
À quoi est-elle due ? Les pénuries auxquelles on fait face, la guerre en Ukraine, on va dire.
Bonjour. La question qu'on voudrait vous poser, c'est en quoi l'inflation a-t-elle changé vos habitudes ?
Alors, l'inflation change progressivement mes habitudes. La première habitude, c'est l'eau. C'est tout bête, mais c'est l'eau. L'eau, c'est devenu, c'est le pétrole façon or bleu, on appelle ça l'or bleu. L'eau est importante et l'eau va commencer à prendre un... Alors déjà, elle se raréfie. Et deuxièmement, surtout, le prix aussi va énormément augmenter. Donc, depuis à peu près à peine un an, on a réduit notre consommation d'eau. Donc, on a installé des cuves de récupération d'eau. On arrose le potager et le jardin uniquement avec de l'eau de récupération. On utilise moins d'eau à la maison. Au lieu de prendre 2 douches par jour, c'est 1 douche. Des douches plus courtes. Et puis, tout ce qui vise à économiser, réduire la quantité d'eau, on va vers ça. Et c'est payant, puisqu'on vient de recevoir notre facture d'eau. On a baissé d'un tiers notre facture, notre consommation d'eau. Donc, ça nous encourage à continuer. La deuxième chose, ça va être au niveau de l'électricité, consommation d'électricité. Donc, on en est à faire attention, éteindre les lumières quand on n'est pas dans la pièce. Des choses qui nous semblent pas si difficiles que ça à mettre en place, parce qu'on a eu des parents qui nous ont habitués à ça, et ça ressemble à du bon sens. C'est pas la peine de laisser la lumière allumée dans une pièce si on n'y est pas. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Ensuite, l'alimentation, pour l'instant, on n'est pas trop à faire attention. C'est pas qu'on ne fait pas attention, on n'a pas modifié notre alimentation. On reste... alors, ça ne veut pas dire qu'on consomme beaucoup en termes d'alimentation, mais je veux dire, on fait attention à ce qu'on consomme et on n'a pas encore agi sur ce tableau-là. Voilà, c'est plutôt l'eau, l'électricité. Et ensuite, s'il le faut, ce sera l'alimentation.
Merci beaucoup. Alors, en quoi l'inflation a-t-elle changé vos habitudes? Et pour vous, à quoi est-elle due?
En quoi elle a changé mes habitudes? En fait, si tu veux, je suis au salaire minimum depuis très longtemps, donc pour moi, ça n'a rien changé.
Ok.
Si, c'est légèrement pire. Voilà, donc angoisse, dépression, peur du lendemain. La deuxième question,
c'était... Et pour vous, à quoi est-elle due?
On est dans un monde fini, avec moins d'énergie, moins de matières fossiles. Donc forcément, ça devient de plus en plus cher, à tout point de vue. Il y a aussi la guerre, il y a le changement climatique, le réchauffement, qui fait que ça brûle un peu partout. Que là où ça brûle pas, c'est plutôt des inondations, donc moins de matières premières, en ce qui concerne la nourriture, etc. Donc je pense que tout ça, ça joue vraiment pour que l'inflation soit sans limite. Ouais.
En quoi l'inflation a-t-elle changé vos habitudes et pour vous, à quoi est-elle due?
Elle a changé les habitudes dans la mesure où il faut dépenser moins, où les ressources restent les mêmes, notamment pour les emplois précaires. Comme celui d'AED, et que nécessairement, quand la vie coûte plus cher et que les salaires stagnent, l'inflation a changé les habitudes sur des petites choses essentielles, notamment l'essence, qui reste quand même un besoin primaire, mais qui continue d'augmenter sans que les salaires augmentent, et puis le coût de la vie en général. Et c'est dû, selon moi, au contexte géopolitique, effectivement les matières premières qui arrivent moins parce que la guerre et que toujours le besoin d'argent sans augmenter les ressources des contribuables automatiquement. Voilà.
Merci beaucoup.
Avant de terminer cette émission, Adelin, Gabriel, Raphaël et Kenza, tous les quatre, ont débattu sur la faim dans le monde.
Alors, quelles sont les trois principales causes de la faim dans le monde?
Les trois principales causes de la faim dans le monde sont les hommes politiques. La sécheresse et la différence entre les riches et les pauvres.
Moi, je suis pas trop d'accord avec ça.
Les hommes riches, ils gagnent leur argent normalement. Ils font le travail pour ça.
Moi, je pense que c'est à cause du réchauffement climatique, des cultures qui sont de plus en plus gâchées à cause du réchauffement climatique, du fait qu'on n'aide pas assez les pauvres.
Comment on résout la faim dans le monde?
Il faudrait investir 267 milliards de dollars par an pour résoudre la faim.
Il y a une meilleure solution en faisant un meilleur partage des richesses et en faisant des dons de nourriture et d'argent, comme les Restos du Cœur, ça marcherait mieux.
Je pense qu'il faudrait plus d'associations, plus que les gens riches aident les plus pauvres et qu'on s'attarde un peu plus sur le réchauffement climatique.
Quelles sont les conséquences de la famine?
Des milliers de morts, d'enfants morts, des cultures, du coup, comme elles sont gâchées, il y a des morts, il y a beaucoup, beaucoup de morts.
Plus de 800 millions de personnes sont atteintes par la faim dans le monde et ça pourrait déclencher aussi des problèmes dans les pays et tout ça à cause du manque de répartition des ressources.
Oui, c'est vrai, mais c'est aussi des gens qui sont malades parce qu'ils ne peuvent pas se nourrir, ils ne peuvent pas s'abriter parce qu'ils n'ont pas de maison.
Quelles sont les causes de la faim liées à l'environnement?
Du coup, la sécheresse qui empêche les plantations et tout ça. S'il n'y a pas d'eau et de terre qui sont prêtes à être cultivées, il ne va pas y avoir beaucoup de nourriture et tout ça.
Oui, les terres non propices, c'est la cause.
Merci de nous avoir écoutés, ce fut un plaisir.
Et pour finir, nous allons écouter Trio, l'hymne de nos campagnes, sorti le 27 novembre 1998. À bientôt.
Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les mains vont faire la part des choses. Il est grand temps de faire une pause, troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Pas de boulot,
pas de diplôme,
partout la même
odeur de zone. Plus rien n'agite tes neurones,
pas même le shit que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs,
rien ne te retient.
Va vite
faire quelque chose de tes mains. Ne te retourne pas si tu n'as rien,
et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi
près d'une rivière,
écoute le coulis de l'eau
sur la terre. Dis-toi qu'au bout, il y a la mer,
et que ça n'a rien d'éphémère.
Tu comprendras alors que tu n'es rien, comme celui avant toi, comme celui qui vient, que le liquide qui coule dans tes mains te servira à vivre jusqu'à demain matin. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi près d'un vieux chêne et qu'on parle à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le saignent? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde de tout son orgueil.
Sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey, crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. Et j'aimerais pour tous les animaux que tu captes le message de mes mots. Car un lopin de terre, une tige de roseau
servira la croissance de tes marmots. Servira la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey!